BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On réfléchit à l'âge auquel il faut préparer sa retraite et en fonction de cet âge, comment on épargne? C'est l'objet du question-réponse avec vous, Christian Fontaine. Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour, vous êtes directeur délégué de la rédaction du Revenu. On n'arrête pas de parler. Pendant la pub, on prépare les séquences. On a beaucoup de réactions d'auditeurs sur le sujet que nous traitions dans la partie actu de Tout pour investir tout à l'heure avec Jean-Louis Delleroux de bfmbusiness.com. On se demandait si nos conseillers bancaires avaient de l'avenir. Vous êtes nombreux à réagir et je voudrais partager avec vous, Christian, une réaction d'auditeur puisque on va réfléchir à quel âge il faut, commencer à préparer sa retraite et finalement vers qui on se tourne pour préparer cette retraite. Est-ce que le conseiller bancaire ou la conseillère bancaire est la bonne personne? Christophe nous a écrit en réaction à notre audience, notre discussion. Mon père était cadre et conseiller crédit il y a 30 ans. J'ai quand même l'impression qu'il y avait bien plus de pouvoir de négociation et de décision qu'aujourd'hui, où les conseillers lisent leur ordinateur et tableur Excel, et si c'est vert, ils disent OK, si c'est rouge, ils disent non. Ils n'ont plus aucune valeur ajoutée, comme par le passé, et si on rajoute ça à la déshumanisation des banques, on peut se poser la question de leur utilité. On en revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il faut plus d'humains, il faut plus de digital et plus de conseils pour refaire la cerise de nos conseillers banquiers.
Alors, c'est un peu tout ça, mais pour préparer sa retraite, j'aurais tendance à dire que le premier réflexe, c'est tout simplement de sortir son portable et de sortir ça, d'aller sur le site inforetraite.fr où vous allez avoir une estimation du montant de votre retraite en monnaie en sonnante et trébuchante, et ensuite de sortir la calculette pour voir un tout petit peu, essayer d'anticiper votre niveau de vie à la retraite et essayer de voir quels sont vos besoins en termes d'épargne. C'est un secret pour personne. Toutes les études du corps sur les retraites, le conseil d'orientation des retraites qui est un peu, ce sont ces études qui sont les études de référence. Toutes les études aboutissent aux mêmes conclusions, à savoir que ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire en fait le ratio entre la première retraite et le dernier salaire d'activité ou le dernier revenu d'activité va baisser. Donc c'est un secret pour personne. Il faut se préoccuper de sa retraite. Il va falloir épargner. Il n'y a pas d'autre solution qu'épargner. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que il existe des solutions pour se doter d'un complément de revenu, et surtout l'effort n'est pas, forcément très important à fournir à partir du moment où vous commencez à épargner jeune pour votre retraite. Lorraine, j'ai une petite question, une petite colle. Allez-y. Pour vous. Si vous commencez à épargner à 25 ans pour votre retraite, d'après vous, si vous souhaitez, on va dire le million, on va être ambitieux, ouais, à 65 ans. Combien faut-il épargner par mois à partir de l'âge de 25 ans?
À partir de 25 ans, je dirais en dessous de 300 euros.
Alors, vous avez raison, il suffit d'épargner, entre guillemets, 150 euros par mois, si vous les placez à 9%. Pour y revenir, 9% peu ou prou, c'est l'évolution des actions depuis 10 ans, donc c'est exactement les marchés, voire même moins que les actions monde. Il faut quand même, pour atteindre ce fameux chiffre du million, partir avec 15 000 euros sur la table. Si vous partez sans mise de départ, vous n'aurez entre guillemets que 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros, 640 000 euros. Maintenant, si vous commencez à épargner, non pas à 25 ans, mais à 35 ans, combien faut-il épargner chaque mois pour atteindre le million à 65 ans?
Plus que 300 euros par mois.
Il faudra légèrement plus, il faudra 500 euros. Oui. Maintenant, si vous commencez à épargner à 45 ans, il faudra 1500 euros. Vous voyez bien que l'élément clé de la préparation à la retraite, c'est l'anticipation. En fait, l'effet de levier sur le plan d'épargne, l'effet de levier le plus fort, il n'est pas fiscal. L'effet de levier le plus fort, c'est le temps. Pour profiter de ce que Einstein appelait la 7e ou la 8e merveille du monde, à savoir la capitalisation des intérêts. Vous placez 100 à 5%, à la fin de la première année, vous avez 105, et à la fin de la deuxième année, vous gagnez plus que 5, puisqu'en fait, les intérêts portent non pas sur 100, mais sur 100, plus les intérêts que vous avez gagnés la première année. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut commencer à épargner jeune, alors peut-être pas forcément dès l'entrée dans la vie active, ça c'est très théorique.
Il faut quand même le pouvoir, voilà.
Il faut le pouvoir, mais plus vous commencerez jeune, et plus l'effort à fournir sera faible. N'oublions pas, et ensuite on range la calculette, mais si vous voulez par exemple 1000 euros d'épargne en plus chaque mois à la retraite, 1000 euros, c'est pas non plus une somme énorme. Bon, il vous faut, le jour où vous partez à la retraite, avec un taux de rendement moyen de votre épargne de 3%, il vous faut 400 000 euros quand même. Bon, avec, si vous voulez 2000 euros, il vous faut 800 000, c'est mathématique. Hein. Mmh. Si vous voulez 3000 euros, il vous faut 1,2 million, sans puiser dans votre uniquement en consommant les intérêts sur la base de 3% par an. Voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, il faut se préoccuper tôt de sa retraite, mais il y a des solutions possibles pour se doter d'un complément de revenu.
Bon, on va continuer à parler par catégorie d'âge, si ça vous va. Ces solutions, quand on est assez jeune, disons autour de 35 ans, quelles sont-elles ?
La solution quand on est jeune, le mot-clé, il y en a un seul, c'est acquisition de la résidence principale. Alors, certes, vous regardez sur Internet, il y a des tas de simulateurs, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer ? Bon, ça dépend uniquement donc alors des paramètres que vous rentrez, donc alors les taux, le taux du crédit, le taux de revalorisation des loyers, le taux de revalorisation, donc alors, bon. Donc le conseil de revenu, c'est pour préparer sa retraite d'acquérir sa résidence principale. Tout simplement parce que le jour où vous partirez en retraite, si vous êtes salarié, peu ou prou, vos revenus vont être divisés par deux. Et vous serez bien content à ce moment-là de ne pas devoir décaisser chaque mois le montant d'un loyer. D'autant que ce loyer, avec le temps, risque de progresser bien davantage que le montant de votre pension de retraite, qui peu ou prou, dans la durée, ne sera pas forcément totalement indexé. Acquérir sa résidence principale, c'est aussi investir dans une niche fiscale à la française. On ne le répétera jamais assez. Lorsque vous revendez votre résidence principale, vous ne payez pas un euro ni d'impôts ni de prélèvements sociaux sur l'ensemble de vos gains, quel que soit le montant de ces gains, quelle que soit la durée de détention du bien, quel que soit le montant donc, lors du prix de cession. C'est unique, ça n'existe pas ailleurs. Enfin, en tout cas, donc, en droit fiscal français, c'est unique. Donc autant profiter de cette niche fiscale. Oui, il faut faire l'acquisition de la résidence principale. Alors on pourrait dire, c'est un truc de vieux, l'immobilier. Bon. Aujourd'hui, la mode est à la location. On loue tout. On loue des voitures, on loue des vêtements, on loue des équipements. Voilà, la mode de l'usage. Lorsque vous regardez les dernières statistiques de l'INSEE, le taux de propriétaires chez les 20-30 ans, 25-35 et 30-40 ne cesse de progresser. Il a quasiment doublé en 10 ans. Donc, les jeunes, quand ils épargnent pas pour leur vieux jour, ils épargnent pour acheter leur logement. Ensuite, vers 40-45 ans, on commence à épargner pour la retraite. Mm-hmm. Et ensuite, donc, vers 55-60-65 ans, on épargne pour transmettre à ses enfants. Donc oui, il convient d'acquérir sa résidence principale. À minimum, investir dans la pierre, parce que tout le monde, notamment tous ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui vivent dans des grandes villes et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un deux pièces ou un logement qui réponde à leurs besoins. Donc eux, l'essentiel, c'est d'investir dans la pierre, de mettre un pied dans la pierre pour ne pas être, je dirais, maintenu en dehors du marché si les prix repartent à la hausse.
Christian, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que justement, aujourd'hui, en 2024, en France, cette accession à la propriété, elle ne se fait peut-être plus dans la tranche 30-40, mais plutôt dans la tranche 40-50, parce que précisément, en fait, avec peut-être des gens qui sont plus indépendants, moins salariés, une précarisation du statut de CDI, on va dire, quelque part, on peut prévoir de devenir propriétaire, mais on va peut-être commencer par préparer sa retraite. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte d'inversion dans la chronologie, dans la frise. Normalement, on achète sa maison, ensuite on prépare sa retraite. Est-ce que finalement, on ne peut pas maintenant envisager l'inverse? On commence dès le plus jeune âge à préparer sa retraite et ensuite, dans le bloc d'âge suivant, eh bien, on s'intéresse plus à son appartement ou à sa maison.
On peut tout envisager. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les conditions de marché, vu le niveau des prix, vu les taux d'intérêt, il y a une partie donc, alors, des primo-accédants qui ne peuvent pas se permettre donc, alors, de rentrer sur le marché. Voilà.
Mais, Ce qui ne leur empêche pas de faire l'effort d'épargne.
Voilà, ça c'est très important. Je pense qu'il y a deux points importants. Un, de faire un effort d'épargne. Et deux, peu ou prou quand même, si on ne rentre pas sur le marché de la résidence principale, il faut mettre un pied dans l'immobilier. Tout simplement parce que si les prix repartent à la hausse, vous allez être expulsé du marché. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rentrer dans le marché. Donc ça, c'est un point clé. Dans les grandes villes, notamment à Paris, il y a beaucoup de cadres supérieurs, de cadres dirigeants qui, au début des années 2000, n'achetaient pas, parce que vous pouvez voir qu'ils ont vendu leur résidence principale. Ils considéraient que c'était les prix prix était trop élevé, eh ben, peu ou prou, tous nos colocs sont passés par la case location et tous sont revenus nos colocs par la case achat. Il faut faire très attention. En fait, il faut investir dans un actif qui est important pour vous à long terme. Et je pense que la pierre est un actif important pour s'offrir un toit, est un actif important. Si on n'a pas les moyens d'acheter son logement, on investit dans du locatif, voire dans une résidence secondaire, qu'on pourra toujours revendre le moment venu pour acheter son logement. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, sur inverser un tout petit peu les stratégies par rapport aux stratégies très, très classiques, pourquoi pas, mais de toute façon, l'acquisition du logement, c'est une décision à la fois qui protège sa famille et puis c'est la première décision en matière de retraite.
Voilà, Christian Fontaine et ses recommandations. Bon, on a parlé de l'achat du logement. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde d'autre comme moyen de préparer sa retraite ?
Alors, si on progresse un tout petit peu en tranche d'âge, vers 45 ans, il faut penser à la diversification. Et je dirais que mon placement préféré à 45 ans pour préparer sa retraite, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Alors pourquoi ? Parce que, en fait.
Haute niche fiscale à la française que vous aimez beaucoup.
Voilà, c'est une niche fiscale à la française, vous avez raison. C'est une. En fait, c'est là, même encore plus précisément, c'est une enveloppe fiscale. Et dans cette enveloppe fiscale, pourquoi je l'aime ? Parce qu'on investit en bourse. Et seul le placement en action affiche sur le long terme un taux de rendement qui va vous permettre, entre guillemets, de vous enrichir avec votre épargne, même pas entre guillemets. Et donc, seul le placement en action est à la hauteur des enjeux. Mmh. Hein ? Vous connaissez la règle des 72. La règle des 72, c'est que vous doublez votre capital d'un calcul égal à 72 divisé par le taux de rendement. Donc, si vous placez à 1%, il vous faut 72 ans pour doubler votre capital. Si vous placez en bourse, on va dire à 5%, il ne vous faut que 15 ans pour doubler votre capital. Alors, je sais bien, on dit. Et sur votre antenne, il y a des tas d'experts qui développent la théorie selon laquelle la bourse, c'est trop risqué. Si jamais les marchés s'effondrent la veille du jour du départ à la retraite, que va-t-il se passer ? Aïe, aïe, aïe.
Qui dit ça sur notre antenne ?
En fait, personne. Je ne te donne pas de nom. Aïe, aïe, aïe. En fait, si vous placez 100 euros en bourse à 45 ans, à 65 ans, avec un taux de rendement de 7%, vous aurez 400 euros. Même si la bourse s'effondre le jour de votre départ à la retraite, on va dire catastrophe, elle est divisée par deux. Donc, vous aurez encore 200 euros et vous aurez encore doublé votre capital. Ensuite, personne ne retire l'intégralité de son épargne donc alors, des marchés le jour de son départ à la retraite. Donc, alors, on peut, je dirais, en retirer une infime partie donc alors, pour compléter ses revenus. Mais en tout cas, on sort du marché progressivement. C'est autant de raisons pour lesquelles je pense que la bourse est le bon placement pour préparer sa retraite quand on a 45 ans. Pourquoi ensuite le PEA ? Parce qu'effectivement, c'est une enveloppe de capitalisation, c'est-à-dire en fait, on ne paye pas d'impôts ni de prélèvements sociaux. Quand vous encaissez des gains, vous ne payez ces fameux prélèvements sociaux, les impôts, vous êtes exonérés après 5 ans de détention, mais vous ne payez les prélèvements sociaux de 17,2 que le jour où vous retirez de l'argent. Dit autrement, ça veut dire que l'argent que vous devez aux organismes sociaux sur vos gains, eh ben, ils demeurent investis en bourse et ils continuent à faire des petits tant que vous ne retirez pas votre argent de votre plan d'épargne en action. Tout ça, c'est autant de bonnes raisons de placer son épargne retraite à 45 ans sur un plan d'épargne en action. Et puis en plus, vous diversifiez vos placements, puisqu'on là, on parle de placement financier, de placement boursier par rapport à l'immobilier et l'acquisition de la résidence principale dont on parlait tout à l'heure.
Christian, on est un petit peu pris par le temps, mais je voudrais vous soumettre une question de Geoffroy qui nous suit en direct et qu'on salue. Il nous dit qu'il a 32 ans, il a une capacité d'épargne confortable de 1500 euros par mois. Il est propriétaire de sa résidence principale. Il voudrait depuis des années investir en locatif, mais comme on le relève régulièrement dans notre émission Tout pour investir, c'est de plus en plus décourageant. Il envisage de mettre cette épargne, cette capacité d'épargne de 1500 euros par mois en bourse. Il hésite entre un PEA et un compte titre ordinaire. Qu'en pensez-vous ?
Je rajouterais même qu'il peut hésiter. Il peut hésiter aussi avec un plan d'épargne retraite. J'aurais tendance à lui conseiller. Donc voilà trois enveloppes fiscales, donc à des finalités, des modes de fonctionnement différents, tout à fait complémentaires. J'aurais tendance à lui dire 500 euros sur le PEA, 500 euros sur un compte titre ordinaire et 500 euros sur un plan d'épargne retraite. Il capitalisera donc alors en actions européennes dans le PEA. Le compte titre ordinaire, il l'utilisera donc alors par exemple pour les investissements à l'international et le PER, il profitera d'un avantage fiscal, d'un report d'imposition et il investira en bourse l'argent dû aux impôts. Comme ça, il va cumuler les avantages.
Voilà ce qu'on peut vous répondre, Geoffroy. Bon, on va finir avec les placements à privilégier quand on a plus que 55 ans. On va dire quand on commence à s'approcher de la retraite, enfin pour ceux qui prendront leur retraite vers 60 ans, 62, 64, 65, et ceux qui ne la prendront peut-être qu'à 70 ou jamais. Bref, comment on prépare la suite ?
Ben, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit avec le PER, le plan d'épargne retraite, c'est vraiment, bon, vous avez vu les dernières statistiques qui sont sorties, c'est un, donc oui. ça fonctionne bien, alors ça fonctionne...
10 millions de Français, quand
même. Oui, mais là on parle du plan d'épargne retraite individuelle, pas collectif, donc on est plutôt à un peu moins de 4 millions de Français, avec des encours relativement faibles, mais en fait c'est un bon produit, puisque en fait, on le rappelle, hein, les sommes que vous versez sont déductibles de votre revenu imposable et pas de vos impôts, dans la limite de 10% de votre revenu imposable, ce qui signifie très concrètement que pour un cadre, vous pouvez verser 5, 6 000, 7, 8 000 euros par an sur ce plan d'épargne retraite. Et cette somme donc, viendra en déduction de votre revenu imposable. Donc si vous êtes taxé à 30%, eh bien, il y a 30% donc, lors de ce versement qui se traduira en baisse d'impôts. Donc c'est intéressant. En plus, ce qui est intéressant, vous savez, au revenu, on est souvent assez contre, donc alors est très prudent avec tous les produits dits à gomme fiscale, et là, c'en est un. Mais celui-ci est plutôt de bonne facture, et il est possible aujourd'hui, avec des plans d'épargne retraite, notamment ceux qui sont récompensés par le revenu et distribués notamment sur Internet, de placer son argent dans des produits qui sont peu chargés en frais, donc ça, c'est très intéressant. Et puis encore, on le rappelle, c'est une enveloppe fiscale plus qu'un placement. Et au sein de cette enveloppe fiscale, vous pouvez choisir d'investir sur des supports plus ou moins risqués en fonction de votre profil. Le revenu, on recommande plutôt une répartition 60-40. C'est la répartition gagnante à long terme. 60% de fonds en euros et 40% investis en actions internationales, notamment en actions américaines. Donc le plan d'épargne retraite. Alors pourquoi donc, alors, dans cette tranche d'âge-là, vous pouvez me dire on peut commencer à investir dans un PER donc, alors, à 25 ans, vous avez entièrement raison. Sauf qu'en fait, peu ou prou, votre argent est bloqué. Donc si vous commencez à investir à 50 ans, eh bien, ce qu'on appelle le tunnel est relativement court, il est de 10 ou 15 ans, alors que si vous versez sur un PER comme votre auditeur tout à l'heure à 30 ans, bon, ben, peu ou prou, l'argent sera bloqué pendant une trentaine d'années, c'est long, même s'il y a aussi là un avantage, et comme vous ne pouvez pas vous retirer votre argent,
vous le laissez tranquille,
vous le laissez tranquille pour la retraite, c'est très bien. Et puis, l'autre avantage de commencer à verser relativement tard sur un PER, c'est que c'est vers 50, 55 ans, 60 ans qu'on paye le plus d'impôts. Et donc, c'est là où l'effet de levier fiscal est le plus important, puisque encore une fois, l'économie d'impôt dépend de votre taux marginal d'imposition, et souvent, les cas des professions libérales sont plutôt à 55, 60 ans, autour de 41%. Donc, pour 10 000 euros versés, 4 100 euros d'impôts en moins. Tandis que si vous commencez à 25 ans, ben, vous êtes plutôt dans la tranche à 11% ou à 30%. Donc, 10 000 euros versés, ça fait uniquement 1 100 euros ou 3 000 euros d'impôt en moins.
Voilà, l'effet fiscal intéressant du PER pour les hauts revenus. On en parlait la semaine dernière avec un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui nous disait, voilà, pour les hauts revenus, c'est vraiment intéressant. Voilà, pour plein de raisons que vous pouvez retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Merci, cher Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu, d'avoir été avec nous sur ce gros sujet. Voilà, à quel âge commencer à épargner pour la retraite et comment, en fonction de votre âge. On parle d'éducation financière tous les jours et toutes les semaines avec vous, cher Christian. Merci beaucoup pour votre collaboration et vos bons conseils.